merci de m'avoir invité aujourd'hui. Il y a longtemps que je suis les activités du groupe, mais c'est la première fois que j'ai l'occasion de prendre la parole. Vous allez sans doute l'entendre à l'oreille dans la mesure où je n'ai pas encore complètement incorporé, si on veut, la terminologie qui est celle du groupe. Mon titre peut paraître ambitieux, hein, mais je visais d'abord à donner une chance à M. Gagné d'avoir une idée de ce dont j'allais parler. Donc, pas trop vous inquiéter. Surtout que moi, j'ai prévu parler 10-12 minutes. Vous voyez, je ne savais pas qu'il y avait une espèce d'élasticité dans le temps où on pouvait parler. J'ai quand même beaucoup de choses à dire en peu de temps. Je les ai donc écrites. J'ai changé de lunettes. Là, je ne vous vois plus. Ça fait assez curieux. Mais si je vois mon papier, j'ai pas le choix. Mais j'ai toujours l'impression de loucher quand j'ai ces lunettes-là. Je vois bien mon papier, mais tout le monde devient flou. C'est le privilège de l'âge. Donc, ma petite présentation se fera en trois temps. Il portera davantage sur la diversité culturelle que sur le droit d'auteur. D'emblée, je précise que j'occuperai le pôle de la résistance parce qu'on parlait d'opportunités de résistance aujourd'hui. Et je suis plutôt du côté de la résistance. Je pense que c'est une position prévisible de la part d'une chercheuse critique, alors vous savez tout. Pour les deux premiers points, je vais m'appuyer sur les conclusions du mémoire de maîtrise d'une de mes étudiantes, Emmanuelle Coutu, qui n'est malheureusement pas présente aujourd'hui parce qu'elle habite et travaille maintenant à Ottawa. Donc, un mémoire en communication sociale à l'UQTR sous ma direction. Je pense que le mémoire a été communiqué à M. Valran parce qu'Emmanuelle avait changé rien.
Sur le site web
aussi. Oui, bon. Donc, les deux premiers points, je vais faire le lien entre la convention et la gouvernance. Je vais revenir un peu sur la distinction que je fais, moi, entre gouvernance et régulation. En fait, je dirais d'une façon beaucoup plus simple que la façon très savante, comme Michel, de le faire. Et le deuxième point, ce sera sur l'avenir de la convention. Il y a quelqu'un qui en a longuement parlé avant moi, alors je serai bref, ça tombe bien. Et enfin, je parlerai de la LDA, donc la dernière mouture de la loi canadienne sur le droit d'auteur. Pour ça, je m'appuierai sur les travaux d'Azaria, d'Agostino et sur ma propre recherche en cours. Alors, le mémoire, premier point. Le mémoire d'Emmanuel portait sur le rôle des fonctionnaires dans l'élaboration et l'adoption de la Convention sur la diversité culturelle. Le mémoire documente ce rôle à l'aide d'une analyse de contenu de très nombreux communiqués. Emmanuel en avait analysé 114. Mais aussi par des entretiens semi-dirigés avec tout ce qui avait pu compter pour la Convention, de Pilon à Curzy, en passant par Yvan Bernier, Malavoie, quatre ministères, deux paliers de gouvernement, des membres de la société civile. Emmanuel avait vraiment fait le tour des différents intervenants. Le titre complet du mémoire d'Emmanuel se lit comme suit, ça va vous montrer pourquoi je m'intéresse à la gouvernance. La gouvernance de la culture, deux points, le rôle des fonctionnaires fédéraux et québécois dans l'élaboration, etc., etc. Donc, l'idée pour nous, c'était de mettre l'accent, entre autres, sur la gouvernance. Donc, en plus s'intéresser au rôle des fonctionnaires, la mémoire visait donc aussi à argumenter la présence ou l'absence de caractéristiques spécifiques à la gouvernance. Caractéristiques établies à partir de différents textes, dont celui de Catherine Baron, qui avait beaucoup circulé. Sur le plan juridique, la Convention est un instrument juridique international, puisqu'elle a été adoptée à l'UNESCO, un organe onusien, donc dans le système international de l'ONU. Et qui dit système international plutôt que supranational ou communautaire, pour le dire dans les termes de l'Union européenne, dit préséance des acteurs étatiques. On pourrait donc penser qu'avec la convention adoptée à l'UNESCO, et dont nous célébrons l'anniversaire, nous sommes donc dans le cadre classique des instruments juridiques internationaux associés à la régulation politique. Régulation pouvant être caractérisée par le primat accordé donc à l'acteur étatique, donc à la présence d'un système stato-centré, centré sur l'État. Alors que dans le cas de la gouvernance, on fera valoir que l'acteur étatique partage les pouvoirs décisionnels et délibératifs avec d'autres acteurs, en particulier avec les acteurs économiques, le marché, et avec la société civile que je distingue. Emmanuel en est arrivé à la conclusion, malgré le rattachement officiel de la Convention à une structure clairement internationale, qu'on pouvait bel et bien parler de gouvernance. Non seulement parce que la société civile est explicitement nommée dans la Convention, mais aussi parce que son mémoire a permis de repérer différentes autres caractéristiques de la gouvernance, notamment le recours aux alliances. Elle a en effet repéré 8 types d'alliances, dont le très important réseau des coalitions, mais aussi le réseau des réseaux, Internet, dont l'usage a mené une rare transparence en termes d'informations et d'expertise disponibles. Elle a également noté la dénomination des affaires communes, la pluralité et l'hétérogénéité des acteurs et le modèle de gestion original et hybride, toutes les caractéristiques de la gouvernance. Si je résume, bien que chapeautée par une organisation internationale, l'UNESCO, la Convention s'inscrit au moins autant dans un processus de gouvernance que dans un processus classique de régulation internationale, en raison de différents facteurs, dont le rôle important de la société civile. Emmanuel va jusqu'à parler du passage d'un mode de gestion à un autre, tout en soulignant la persistance du rôle des États dans le processus. Voilà donc pour le premier point. Et maintenant, qu'allons-nous faire? Où la Convention a-t-elle un avenir? Bon, Mme Guévremont a longtemps longuement posé la question. Je vais quand même dire ce que les intervenants qu'Emmanuel avait rencontrés avaient tendance à en dire. Donc, la dernière partie de la grille d'entretien d'Emmanuel abordait les suites de la Convention et visait à recueillir les commentaires des fonctionnaires sur l'avenir de la Convention, donc les gens qui avaient été très impliqués dans la conception et l'élaboration. Plusieurs personnes ont mentionné que les principes étaient bons, évidemment, je résume à très, très grand trait, là, mais que l'outil était peut-être désuet, peu susceptible d'affronter les nouveaux défis de l'ère numérique. Peut-être que c'est aussi, entre parenthèses, l'effet d'un changement de gouvernement chez les intervenants. En revanche, ils ont vu le processus d'élaboration de la Convention comme le moment de prendre conscience de l'importance de protéger la culture en tant que bien commun, comme patrimoine commun de l'humanité. L'élaboration et l'adoption de la Convention aura également été une belle démonstration de la volonté des États de conserver leur pouvoir sur la scène nationale et internationale, tout en recourant à des processus associés à la gouvernance. Les plus optimistes des personnes rencontrées voient la Convention comme une étape. Bref, pour utiliser le terme d'un ouvrage dirigé par notre président de séance, David a peut-être remporté une bataille contre Goliath, mais certainement pas la guerre. Le droit d'auteur maintenant. Ici, je me suis appuyée, bon, je l'ai déjà dit sur quel travaux je m'étais appuyée. Le droit d'auteur s'inscrit dans la recherche d'un équilibre entre différents principes qu'on peut considérer comme autant de motifs d'intervention de l'État. Les deux grands principes défendus par les différents intervenants culturels et repris par le législateur canadien sont ceux de l'accès à la culture, qu'on appelle aussi la démocratisation culturelle, et le soutien aux créateurs. Bien entendu, d'autres motifs comme la préservation du patrimoine culturel et la volonté de consolider l'identité nationale, ou encore celui de favoriser la démocratie culturelle, la création culturelle par les citoyens, s'ajoutent aux principes généraux qui motivent plus globalement les politiques culturelles dans leur ensemble. D'autres motifs encore, comme le développement économique, sont mobilisés lorsque vient le temps de débattre de la propriété intellectuelle dans laquelle s'insère le droit d'auteur. Il reste que, stricto sensu, en matière de droit d'auteur, ce sont les principes d'accès à la culture et de soutien aux créateurs qui se sont imposés, générant une tension vue comme positive entre des logiques d'acteurs souvent posées comme conflictuelles par ailleurs. D'après Azaria, les modifications apportées en 2012 à la loi canadienne sur le droit d'auteur représentent un point de bascule dans l'histoire du droit d'auteur canadien. Il identifie deux facteurs, un facteur jurisprudentiel et un facteur social. Du côté de la jurisprudence, Azaria associe le facteur jurisprudentiel donc à deux décisions de la Cour suprême, l'affaire des Berges en 2002, dans laquelle la Cour indique qu'il faut prendre garde de trop rétribuer les artistes et les auteurs. Et l'arrêt CCH prononcé en 2004, lorsque la Cour crée un droit des utilisateurs. Selon D'Agostino, alors que la notion d'exception avant cette décision était fondée sur une interprétation restrictive de la portée des exceptions, la Cour suprême a donné à ce qui constituait une exception stricte le caractère de principe général. Maintenant, les changements sociaux, qui nous rapprochent davantage peut-être de nos intérêts aujourd'hui ici, donc de l'ère numérique. Le facteur social est lié au développement de l'Internet et surtout à l'assimilation de la nature des œuvres à celle de l'information dont on favorise alors la circulation et dont la marchandisation dans certains secteurs est déjà très avancée. Cette assimilation de la nature de l'œuvre à de l'information n'est évidemment possible qu'en raison de sa potentielle numérisation, qu'en droit d'auteur on peut rapprocher d'une certaine dématérialisation, comme ça a déjà été dit. Azaria estime qu'on assiste au décentrement du droit d'auteur, de l'auteur, vers la circulation de l'œuvre, ce qui correspond un peu à ce qui a été dit en termes de déplacement des produits culturels vers les services, qu'on peut interpréter comme le déclin du principe de soutien au profit du principe d'accès. Ce décentrement réalisé par la LDA, la loi du droit d'auteur, s'inscrit dans l'accélération du processus de marchandisation de l'information en cours depuis la fin des années 80 et qui aura débouché sur le sommet de la société de l'information, consacrant le passage de l'information conçue à partir de sa valeur d'usage à l'information conçue à partir de sa valeur d'échange, donc quantifiable, payable. Ou si on veut une conception de l'information qui serait plus près du droit du public à l'information, une information d'informaticien. Azaria souligne deux conséquences à ce qu'on peut appeler l'informationnalisation de l'œuvre, celle d'ouvrir le droit d'auteur à un nombre plus important d'acteurs, dont les maisons d'enseignement, et celle d'imposer aux acteurs, aux auteurs la responsabilité de faire respecter les droits en recourant à des mesures techniques. On va souvent dire de ce point de vue que la LDA va maintenant mettre en conflit ou en tension les consommateurs. Ça, c'est la façon du gouvernement Harper de parler des citoyens. Donc, les consommateurs et les créateurs. S'ajoute enfin à ces facteurs identifiés par Azaria les nombreuses références, d'une part, à la nécessité, là, ça touche davantage ma recherche, à la nécessité pour le législateur canadien d'harmoniser le droit d'auteur avec les accords internationaux, comme ceux de l'OMPI, qui va bien au-delà de la protection des œuvres littéraires et artistiques, comme le faisait la Convention de Berne, par exemple, puisque l'OMPI englobe la propriété intellectuelle, et d'autre part, à l'économie du savoir. Moi, je fais une analyse assez fine, entre autres, du préambule du projet de loi C11 qui a fini par donner la loi sur le droit d'auteur. Et on cite vraiment l'économie du savoir. En fait, c'est assez intéressant de voir, quand on fait une analyse de discours, les passages qui sont à peu près textuellement repris d'un rapport important qui avait été diffusé dans les publiés dans les années 90 de l'OCDE. C'est à peu près le même vocabulaire. Alors, j'en prends à peu près ça au niveau des organismes internationaux, une quinzaine d'années à voyager, les idéologies, si on veut, d'un organisme à l'autre. Et donc, l'économie du savoir axée sur l'innovation et la connectivité, je cite, renvoyant des valeurs qui sont davantage celles du marché que celle de la société civile, suggérant un autre type de gouvernance que celui à l'œuvre dans l'élaboration et l'adoption de la Convention. Autrement dit, la Convention, c'est de la gouvernance parce qu'il y a de la société civile, la LDA, c'est de la gouvernance parce qu'il y a du marché. D'ailleurs, j'avais pris en note le premier attendu du préambule du projet de loi C11, attendu que la loi sur le droit d'auteur est une loi cadre importante du marché, et un instrument indispensable de la politique culturelle, vous voyez, le marché vient avant, qui, au moyen de règles claires, prévisibles et équitables, favorise la créativité et l'innovation et touche de nombreux secteurs de l'économie du savoir. Ça, c'est dans la loi canadienne sur le droit d'auteur. Pour conclure, j'ai vraiment fini, deux instruments juridiques, un international, la Convention, et un autre national, la LDA, deux conceptions de la gouvernance, une avec la société civile, l'autre avec le marché, un point commun, l'impact numérique. Merci.